بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عن أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي. شفاء الإسلام ده حديث. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous délivre un enseignement extrêmement profitable sur le plan spirituel. Un enseignement qui nous permet d'atteindre le summum, le perfectionnement de la foi du iman. Et le message que notre prophète alayhi salatu wa sallam nous délivrait, c'était toujours des messages très simples, très clairs, et qui permet aux croyants de sortir de l'obscurité et d'aller vers la lumière, qui permet à chaque mu'min, quel que soit son degré, et je pèse mes mots, son degré d'éloignement de la religion, quel que soit le niveau de péché, quel que soit le degré de péché ou d'erreur qu'il avait atteint, ben le croyant peut toujours refaire surface en suivant les conseils de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et ces conseils, vous voyez que le prophète, il va donner quelques conseils, et à la fin, quelle est la récompense promise? Tadkhulu jannat rabbikum, faites ces actions et vous entrerez dans le paradis de votre Seigneur. Ce qui est l'objectif de la vie de chaque être humain. Ce qui nous intéresse, c'est que ce hadith, cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, a été prononcée à un moment précis. Est-ce que quelqu'un a repéré à travers les termes? Hajjat al-Wada' barakallahu fik. Lors du pèlerinage d'adieu. C'est-à-dire qu'on est dans les dernières années de la prophétie. Dans les dernières années de la vie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il a pratiquement reçu tout le Coran, où il a pratiquement propagé, où il a propagé l'intégralité, pas pratiquement, où il a propagé l'intégralité de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Et là, on est donc dans le pèlerinage d'adieu. Et il y a en face de lui, selon certaines versions, plus de 100 000 sahaba. Certains sont de Mecca, d'autres de Medina. Donc, ce sont des habitués. Mais il y en a qui viennent de toute la péninsule arabe. Ils avaient reçu la nouvelle plusieurs mois avant que cette année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplira le hajj. Et que ceux qui veulent l'accomplir avec lui, qu'ils se préparent. Et là, il y a des gens qui sont venus de toute la péninsule arabe avec pour seul objectif d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce pèlerinage. Sans savoir, bien sûr, que ce sera le dernier pèlerinage. Dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on dit Hajjat al-Wada', c'est le pèlerinage d'adieu. Et le Khutbat al-Wada', c'est le serment d'adieu. Sahaba ne pouvaient pas savoir, ils ne pouvaient pas deviner. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il sentait que le retour vers Allah Azza wa Jal était proche. Donc comprenez quand il s'agit des derniers discours et qu'en plus c'est l'occasion pour le prophète alayhi salatu wa sallam de s'adresser à jam'un, à une quantité de personnes qu'il n'a peut-être jamais croisé, jamais vu. 100 000 personnes, c'est plus que la population de Mecca, c'est plus que la population de Medina, c'est vraiment, et en plus 100 000 personnes réunies dans un wadi, dans une plaine, dans un endroit, dans une vallée, c'était vraiment une occasion exceptionnelle. Donc, on peut se dire que le prophète va délivrer les messages les plus importants, sans le moindre doute. On a tous lu des traductions du serment d'adieu, où notre prophète alayhi salatu wa sallam va citer des grands points qui retracent un petit peu les principes de la religion, les principes en termes de spiritualité, de culte, de ibada, d'égalité entre les hommes, du respect des femmes, et ainsi de suite. Ce sont des points qu'on connaît. Mais là, de ce hadith d'Abu Umama, Soudi ibn Ajlan al-Bahili, radiallahu anhu, il va rapporter quelques points que le prophète avait cités dans ce pèlerinage d'adieu. Et on va voir On va essayer de les voir. De toute façon, ce soir, Inch'Allah, on termine le chapitre Babu Taqwa, Inch'Allah, j'ai dit. Et donc, on va voir que ce sont des points qui sont d'une simplicité extrême. Que même un enfant, on va dire de la madrasa, d'une école, un enfant de dizaines d'années pourrait comprendre et il saurait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Alors qu'il s'adresse au meilleur des hommes, après les prophètes, et la plus grande quantité réunie, et dans les derniers discours de sa vie. Voilà ce que le prophète dit aux sahaba, « Oh mes compagnons !» Et c'est un message qu'il transmet aux sahaba, et qu'il sait que les sahaba vont transmettre à travers les générations, jusqu'à ce que ça arrive à nous. Est-ce qu'ils l'ont fait? Sans le moindre doute, ils l'ont fait, puisque nous sommes là ce soir à répéter des paroles qui ont été prononcées, subhanallah, il y a des siècles et des siècles. Ça fait partie également de la préservation de cette religion, comme on avait maintes et maintes fois expliqué. Donc le prophète donne le premier conseil à sahaba, « Ittaqullah, craignez Allah ». Et on avait, « Bidnillah », enfin, pourquoi « Ittaqullah » D'ailleurs, le mu'allif choisit ce hadith pour compléter le chapitre sur la taqwa, parce que le premier conseil que le prophète donne au sahaba de ce sermon, c'est « Ittaqullah, craignez Allah ». Et le chapitre qu'on est en train de conclure ce soir, c'est sur la taqwa, c'est sur la piété. Pour que, on rappelle, pour que ça reste ancré en nous l'importance des hadiths que, bidnillah, on a pu essayer de voir et qu'on conclut par celui-là pour qu'on retienne bien que le plus important, c'est la crainte d'Allah, la piété. Et comme on a pu, bidnillah, le rappeler dans tous les hadiths qu'on a vus, tout va démarrer à partir du cœur. Vous avez dit qu'il y a dans le corps de l'homme une partie, si cette partie est pure, tout ce qui va s'en écouler sera pur, c'est le cœur. Et si ce cœur est sale, ben, il n'y aura que des choses mauvaises. Parce que le cœur, c'est celui qui dirige les jawarih, les membres. Et donc, premier conseil, le prophète, ittaqullah. On peut se dire pourquoi il dit ça au meilleur des hommes, aux sahaba, parce que, comme on avait vu dans le doua de la dernière fois, il n'y a pas de limite à la piété. Même si on pense avoir fait un chemin vers la piété, il faut toujours demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder encore plus de piété. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Et si une personne à un moment donné se dit, na'oudhu billah, que je pense que j'ai atteint un bon degré de taqwa, je suis quelqu'un de muttaqi, c'est que tout est à refaire. Tout est à faire en fait. Quand la personne a l'impression qu'il a atteint un degré de foi sur lequel il peut se reposer, il en est presque fier, et d'une certaine façon il se sent un petit peu au-dessus des autres, c'est qu'en fait il n'a rien fait, il n'a pas avancé, c'est que Shaytan est en train de travailler avec cet homme-là, en train d'insuffler à la ujbu bin nafs, la fierté, ainsi de suite. Cette personne doit retravailler sa foi. Alors que celui qui est en permanence en train de se remettre en question, en train de chercher les moyens pour se rapprocher d'Allah, il s'interroge sur sa façon de vivre, il essaie d'analyser ses actions pour voir est-ce que je désobéis à Allah Azza wa Jal régulièrement, trop souvent, est-ce qu'il y a des péchés qui se répètent, cet homme-là, il est dans le droit chemin parce qu'il est en train de construire sa relation avec Allah Azza wa Jal. Donc, premier conseil, ittaqullah, d'abord on traduit, wa sallu khamsakum. Faites vos 5 salats. Première obligation, premier rukn, première révélation que le prophète a mis, premier amal, première action bil jawarih extérieure que le prophète a reçue de la part d'Allah, et dans les derniers instants de sa vie, il rappelle aux sahaba, wa sallu khamsakum. Et dans les derniers instants de sa vie, cette fois-ci, au moment avant de mourir, parmi les derniers rappels qu'il a fait aux compagnons qui étaient présents, c'était également concernant la salah. وَصُومُ شَهْرَكُمْ. Et jeûnez le mois de Ramadan. Jeûnez le mois, c'est-à-dire Ramadan. Là aussi, une action qui a été révélée en l'an 2 de l'Hégire. Est-ce que vous pensez une seconde que les sahaba vont pas jeûner? Jamais de la vie. Est-ce que vous pensez une seconde qu'un sahaba va abandonner un pilier de l'islam? Nous, on ne serait jamais prêts. Alhamdulillah, jamais on pourrait abandonner un jeûne. Sauf vraiment qu'on est malade. Parfois, même qu'on est malade, on essaie de faire l'effort pour faire ce jeûne. Pensez-vous une seconde que les sahaba vont abandonner le jeûne un jour? Jamais de la vie. Quand le prophète me rappelle aux sahaba, jeûner ce mois, c'est pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'action et que nous réalisions qu'est-ce qu'il y a à obtenir à travers cette action. On continue. Waddu zakata amwalikum, et donnez la zakat, le mon sur vos biens. Wa ati'u umara'akum, et suivez vos dirigeants, vos responsables, tadkhulu jannata rabbikum, vous accéderez au paradis de votre Seigneur. Alors, pour revenir un petit peu au début en commentaire, celui qui fait le charh du hadith, il dit que lorsque le prophète alayhi salat wa salam faisait un khutbah, un sermon, ben, il y avait deux catégories de khutbah. Il y a les khutbah, on va dire, un peu plus générales, qui faisaient pour les idéens et ainsi de suite. Et puis il y a des khutbah qui étaient spécifiques à des circonstances. Et c'est là que nous voyons toute la sagesse de le prophète alayhi salat wa salam quand il y avait un problème dans la communauté. Que ce soit un problème général ou concernant des individus, le prophète alayhi salat wa salam montait immédiatement sur le mimbar, il invitait les sahaba et il sermonnait les sahaba. Il les rappelait à l'ordre, il donnait l'enseignement qu'il fallait par rapport au problème, pour résoudre le problème en apportant la solution spirituelle immédiatement. Est-ce que de nos jours, on a encore accès à ces khutbahs? Bien sûr. On a encore accès par les hadiths, à ses paroles prophétiques. Ça veut dire que le mu'mine, dans les situations qu'il peut vivre, ben, il doit normalement trouver la solution à travers les conseils prodigués par le prophète alayhi salat wa salam à ses sahaba. Et là, celui qui fait le commentaire, il va citer un exemple. Et je pense que c'est un exemple qui nous parle, un exemple qui est très important à retenir à une époque où on est un peu à la recherche des valeurs humaines. D'accord ? Et où la société est en perte d'humanisme. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, qu'on constate. Hein. Il n'y a qu'à voir enfin, on ne va pas entrer dans la politique ou dans l'actualité, mais les problèmes d'immigrés, les problèmes de SDF, des personnes qui dorment à la rue. On voit des drames humains qui se déroulent et on se demande, est-ce que le fait d'abandonner, de laisser ces personnes mourir, hein, en ce moment en métropole, comment il fait déjà froid? Et on sait qu'il y a des femmes, il y a des enfants dans les rues, même il y en a qui ont été prises en charge, mais on sent bien qu'il y a une opposition entre les valeurs que nous prenons et la réalité. On pourrait dire sur le terrain, il n'y a pas besoin d'aller voir les immigrés. Vous voyez le nombre d'SDF qu'il y a à Paris. Moi, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas comparer avec Saint-Denis de la Réunion. Et c'est choquant. Vous voyez des personnes qui dorment dans la rue, qui font 0 degré, moins 2 degrés. On se dit que humainement, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Et donc, parmi ces valeurs, lorsque le prophète alayhi salat wa salam, une fois, avait reçu la visite de Usama ibn Zayd radiallahu anhu, et le prophète salam aimait beaucoup Hazrat Usama radiallahu anhu. Et Usama ibn Zayd radiallahu anhu était venu interpeller le prophète alayhi salat wa salam pour quelque chose de très délicat. Quelque chose de très délicat, et certaines personnes avaient envoyé Usama demander ce qu'on va expliquer au prophète sallam parce qu'il connaissait la muhabba, l'amour que le prophète avait pour Hazrat Usama radiallahu anhu, en pensant que si la demande vient de Usama, jamais le prophète alayhi salatu wassalam ne va refuser. Et quelle était cette demande extrêmement embarrassante pour laquelle le prophète sallam a jugé bon de faire un khutbah spécial, un sermon pour rappeler aux sahaba que là vous avez fait une grave erreur. Attention à ne plus jamais répéter la même erreur. Quelle était la demande d'Osama? Il y avait une femme de la tribu des Bani Makhzoum, oui, Al-Mar al-Makhzoumiya, une femme qui avait volé, on le dit très clairement, et c'était une femme issue d'une tribu noble. Et donc, certaines personnes étaient très embarrassées d'appliquer la sentence sur cette personne. Et là, ils ont été voir Usama, radiallahu anhu, dire, Usama va voir le prophète sallam, demande intercession pour que, ben, il pardonne à cette femme qui a commis un crime pour lequel il y avait une certaine sentence. Et là, le prophète, alayhi salat wa salam, a compris exactement l'objectif. Pourquoi est-ce que Usama vient le voir? Il a dit, atashfa'u fi haddi min hududillah. Tu viens demander intercession dans quelque chose qui revient à Allah, azza wa jal. Et il a compris exactement pourquoi est-ce que Usama était venu l'interpeller pour cette femme, parce que c'était une femme noble, d'une grande lignée. Et le prophète, il n'avait pas aimé cette situation. Et là, il a dit aux gens, sachez, فَخَطَبَ النَّاسُ وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّ الَّذِي أَهْلَكَ مَنْ كَانَ. Sachez que ce qu'il y a parmi les causes de destruction des communautés avant nous, c'est lorsque Le sens du hadith, lorsque quelqu'un qui faisait partie de la, entre guillemets, hein, de la noblesse, il commettait des fautes, ben, on ne lui disait rien. Parce que c'était un riche, parce que c'était une grande famille, parce qu'il faisait partie de la noblesse. Mais si la même faute était commise par le commun des mortels, quelqu'un d'ordinaire, entre guillemets, hein, je pèse mes mots, ben, immédiatement, on sévissait la personne. Le message, le prophète était très fort. Ne pensez pas que votre nasab, que votre lignée, que le nom de vos parents, le nom de vos grands-parents change quelque chose pour Allah Azza wa Jal. Nous sommes les serviteurs d'Allah et nous serons présentés à lui avec nos a'mal, avec nos actions. Attention de sombrer dans cette erreur, de mettre en avant la noblesse ou autre chose et d'écraser les personnes qui sont faibles. C'est un enseignement extrêmement important qui nous prouve une qualité essentielle de l'islam, c'est l'égalité. L'égalité entre les races, mais l'égalité également entre les individus. Donc, l'auteur a jugé bon de rappeler cet événement parmi tant d'autres pour qu'on réalise que notre dîn, subhanallah, est basé sur des valeurs humaines et également le rappel est quelque chose de fondamental. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, on doit être capable, et les héritiers du prophète, qui sont les savants, les ulama, les personnes qui ont la connaissance, doivent être capables de recadrer, de ramener les gens vers la vérité lorsqu'ils constatent qu'il y a une fitna ou qu'il y a une erreur qui est en train de se propager. Et donc là, dans le pèlerinage d'adieu, le prophète alayhi salatu wassalam va donner des conseils très généraux aux sahaba et il commence bien sûr, comme on dit, par « Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum » comme on le voit dans beaucoup de versets. Beaucoup de versets qui commencent par « Ya ayyuhannas uttaqu rabbakum »« Ay ittaqu » Craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé, celui qui vous donne vie et celui vers lequel vous serez retourné. Des messages simples, c'est-à-dire un circuit qu'on doit comprendre. Pourquoi doit-on craindre Allah Azza wa Jal? Pourquoi? Il y a une différence entre craindre Allah et avoir peur d'Allah. La peur, ça concerne quelqu'un qui va nous faire du tort, du mal, ou qui nous veut du mal. Est-ce que notre Seigneur nous veut du mal? Bil'aks. Bien au contraire. On a vu différents textes où on montre que lorsque le serviteur se trompe, il commet un péché, Allah Rabbul Izzah demande aux anges de ne pas inscrire le péché. Peut-être qu'il va revenir vers lui, il va demander pardon. Nous savons très bien qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas de mal pour ses serviteurs. Mais la crainte d'Allah, c'est un mélange entre l'amour, la honte et justement la peur du châtiment. L'amour pour celui qui nous a créé, la honte de désobéir à celui qui nous a accordé tous ses bienfaits en commençant par la foi et la crainte de son châtiment en cas de désobéissance. Et si la taqwa Allah, la crainte d'Allah a trouvé sa place dans le cœur d'un homme, assurément cette personne ne manquera à aucune obligation. Ça, c'est sûr. Et assurément, cette personne ne mettra pas un pied vers le haram. Chaque fois qu'on commet un péché, qu'Allah nous pardonne, c'est qu'il y a un manquement dans la taqwa. Et à chaque fois qu'il y a un manquement dans les bonnes œuvres, par exemple, si un matin on ne se réveille pas volontairement, on ne parle pas de l'erreur, l'erreur est humaine, mais si on a manqué à une obligation volontairement, c'est qu'il y a un manquement dans la taqwa, c'est qu'il y a encore des efforts, il y a encore du travail à faire. Donc, craignez votre Seigneur, وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ أَيْ صَلُّوا الصَّلَوَاتَ الْخَمْسَ الَّتِي فَرَضَهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et également jeûner le Ramadan. On va combiner ces deux actions avec un commentaire. Les muhaddithines, rahimahumullah, ils expliquent que ce sont deux actions qui justement sont citées après la taqwa, qui permettent à l'homme de développer la taqwa. Des fois on peut se dire, mais craindre Allah comment augmenter, comment développer la crainte d'Allah? Dans le deuxième exemple, à travers le jeûne, maintes et maintes fois, on a eu l'occasion de rappeler le verset, comme un kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, que le jeûne nous a été prescrit, comme il a été prescrit aux autres communautés, afin qu'on puisse, sens du hadith, du verset, développer la taqwa. Comment on va développer la taqwa à travers le jeûne? À chaque fois que ton cœur penche vers quelque chose, boisson, nourriture, relation intime, et tu dis non. Le fait de lutter contre son nafs et de faire passer l'ordre d'Allah avant son nafs, tu augmentes ta piété. Lorsque tes yeux veulent regarder ce qui est haram, lorsque tes oreilles veulent écouter ce qui est haram, il arrive à l'alik, et ainsi de suite, ben, on se rappelle qu'on est en état de jeûne et de soumission à Allah Azza wa Jal, et on fait passer la soumission avant les pulsions. C'est là qu'on développe la taqwa. C'est un amoudaj. En fait, le jeûne, c'est un entraînement exceptionnel pour développer la taqwa. Est-ce que vous ne remarquez pas que c'est pendant le mois de Ramadan qu'on est le plus au top spirituellement? Pourtant, nous restons Ibrahim, Nabil, Abdurrahman, il n'y a rien qui change. Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan, je me transforme en super Ibrahim, mes cheveux montent comme un super Saya. Il n'y a pas tout ça. Je ne deviens pas un super musulman. C'est les mêmes actions, bien sûr, on jeûne. Et le Qiyam ul-Layl, c'est comme si que ça devient quelque chose qui fait partie de notre vie. Tout le monde l'a constaté. Ce n'est pas uniquement parce qu'on se réveille pour le suhur. C'est que, intérieurement, on a besoin de le faire. On sent que c'est important de le faire. C'est que là, on atteint un degré de taqwa. Et on ne le remarque pas, nous, mais à chaque fois, depuis que la journée commence, vous vous réveillez, vous avez faim pour aller au travail, vous dites que non, là, on est à jeûne et tout. On se rétracte et on se corrige, même si c'est inconsciemment que ça se passe. Mais la taqwa, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et on peut faire la qiyam ul-layl, on se tient debout devant Allah. Donc, on a compris, le jeûne, c'est la meilleure école pour développer la taqwa. Et au-delà du jeûne de Ramadan, celui qui peut continuer ce travail de spiritualité par les jeûnes qui sont nawafil, lundi, jeudi, 13, 14, 15, ça lui sera extrêmement profitable. Imaginez quelqu'un, toutes les semaines, il jeûne le lundi, le jeudi, subhanallah, imaginez comment est-ce que cette taqwa, elle est entretenue. Et dans la prière, je pense que ça c'est très clair, comment développer la crainte d'Allah dans la prière? La prière, c'est istislam lillah. C'est la soumission totale à Allah Azza wa Jal, à condition qu'on réalise ce qu'on est en train de faire quand on prie. Maintenant, si ce n'est qu'une mécanique qu'on met en application, si ce n'est qu'un enchaînement de gestuels ou de lectures, l'objectif, la salah, elle est faite. Le devoir est accompli, mais l'objectif n'est pas atteint. La piété, elle se développe dans la salah, parce que dans la prière, tu ne dis pas ce que tu as envie de dire. Dans la prière, tu ne regardes pas ce que tu ne dois pas regarder. Les yeux sont rivés vers le sol, vers l'endroit où on se prosterne, qu'on est debout, et ainsi de suite. On n'écoute pas d'autres paroles. Si on entend quelqu'un parler, d'accord, comme ça arrive souvent quand on fait la salah, ben, on essaie de rester concentré. On ne va pas essayer d'écouter, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, de quoi il parle? Non, on reste concentré. Et, on va passer les détails, le gestuel de la salah, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Votre portable sonne, vous ne répondez pas, vous, même les a'mal kathira, les gestes excessif, on essaie d'éviter pour vraiment montrer qu'on est soumis à Allah. Des fois où ça gratte, des fois où on a envie de faire. D'accord? Mais tout ça vient de Shaitan. Parce que si tu grattes là, ça va gratter ici. Et quand tu as gratté là, ça va gratter là. Après, ça va gratter là. Des endroits que tu n'imaginais pas, mais pas tout ça gratte à la salah. C'est très simple. Si tu grattes la première fois, ben, tu vas gratter jusque. C'est comme ça. C'est Shaitan, il essaie de te perturber. Et le fait de résister, il n'y a pas une bête sauvage qui est en train de monter sur ta tête, hein? Il faut être persuadé. Quand ça chatouille un peu, c'est pas un scorpion qui est en train de monter. Il n'y a pas tout ça. D'accord? C'est juste, c'est des sensations. Et je suis persuadé que ça, c'est wasawis de Shaitan. Le fait de résister, de dire que non, même le gestuel, je le contrôle pour Allah. Tout ça, c'est de la soumission. Comme le fait de ne pas manger, de ne pas boire, c'est de la soumission par Allah. Et mieux encore, le contrôle de la pensée. Le fait de rester concentré. Et ça, c'est un défi, ça, à notre époque. Pourquoi est-ce que c'est un défi? Parce qu'on vit dans un monde où on est tellement sollicité par le visuel et par l'audio que l'esprit vagabonde beaucoup. On est à une époque où l'esprit vagabonde. À l'époque, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de la radio et des trucs comme ça. Ben, on va dire que l'esprit a l'habitude de se concentrer sur ce qu'il voit ou l'esprit a l'habitude de s'aligner avec la situation présente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous êtes assis, vous êtes sur votre écran, vous allez au Canada voir ce que ce super ministre est en train de faire, vous allez au Japon, bref, l'esprit vagabonde, on est assis, mais on peut aller partout. Et on est sollicité, et on entend, on lit, tous les deux minutes, votre portable sonne, il y a une notification, il y a que l'esprit va partout. Et dans la prière, c'est un véritable combat de tout contrôler, de tout mettre de côté et d'essayer d'oublier la vie de couple, la vie familiale, la vie professionnelle, les demandes de congés, les arrêts maladie, les factures EDF qui sortent, la CAF, le virement, les problèmes de banque, et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Notre vie, elle est, subhanallah, il y a plein de choses. Du début jusqu'à la fin, c'est terrible. Mais mettre tout ça de côté, lillah, je vous assure que ce n'est pas évident. C'est un mujahada. Et quand on creuse un petit peu, beaucoup de questions. Et pour ceux qui osent le demander, le poser, beaucoup de questions reviennent sur la concentration dans la salah, qui est parfois un aveu d'impuissance. Et c'est très bien ça. C'est très bien. Quand une personne vous dit que j'ai du mal à me concentrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il culpabilise. Il sent que c'est pas bien comme je fais. Et il sent que c'est un manque de respect envers Allah Azza wa Jal que de se tenir, soi-disant, devant lui et de ne pas penser à lui. Ça, c'est un manque de respect. Alors que la personne qui s'y habitue, Allah Musta'an, ne se rend même pas compte qu'il prie sans se soumettre à Allah, sans que son cœur se soumette à Allah. Ses membres obéissent à ce qu'Allah attend de lui, mais le cœur n'y est pas. Et si le cœur ne se soumet pas à Allah dans la salat devant Allah, quand est-ce qu'il va se soumettre à Allah? Je répète, si le cœur ne se soumet pas à Allah quand il est censé être devant Allah, quand il est censé être dans la position la plus proche de Allah, c'est-à-dire en prosternation, ben dites-moi quand est-ce qu'il va se soumettre à Allah? Dehors de le bazar, dans le centre commercial, dans les fitna, là wallah. Donc c'est un travail à faire immédiatement. Et Allah Rabbul Izzah nous donne la possibilité de le faire 5 fois par jour. Le fait que la salah soit répété 5 fois par jour, c'est un entraînement qui se répète. Donc, à travers la salah, le mu'min doit développer cette soumission. Parce que la taqwa, elle est synonyme de soumission. Et l'objectif sera atteint lorsque cette prière te permet en sortant, tanha anil fahsha'i wal munkar. Quand tu es dehors, khalas. Tu peux voir Miss Monde, Miss Univers, Miss Noix de Coco, Miss Gouyavier, Miss Letchi, Miss Mangue José, tous peuvent passer devant toi. Le contrôle du regard, c'est comme si tu es dans la salah. Wallah, c'était ça, les sahaba, ils avaient atteint ce degré. Et si on n'atteint pas ce degré concernant tous les péchés possibles, ça veut dire que la prière n'est pas parfaite. C'est-à-dire que la taqwa, elle n'a pas atteint le cœur. Hada. Donc, sallu khamsakum wa sumu shahrakum. Et puis, on ne veut pas trop développer parce qu'on veut rester dans les timings pour une fois. Également, la sincérité dans la salah, on le fait pour Allah. Al-khushu', la dévotion, la soumission à travers les lectures maintenant, à travers les louanges d'Allah, en lisant le Subhanallah, Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-Azim, à travers le gestuel, la prosternation, la génuflexion, qui sont vraiment des positions de soumission. Si on peut joindre, je ne dis pas l'utile, l'agréable, mais le gestuel à la lecture et à la compréhension de ce qu'on est en train de faire, la salah, elle est exceptionnelle. C'est pour ça qu'on dit que la fraîcheur de ses yeux, c'est leur salah. Ce n'est pas pour rien que si symboliquement, la salah a été donnée auprès du trône d'Allah. C'est-à-dire que cette action, elle te ramène auprès du trône d'Allah. La salah, c'est la seule action qui a été donnée au prophète alayhi salatu wassalam auprès du trône d'Allah, directement, sans l'intermédiaire de l'ange Jibril, symboliquement, parce que il y a un lien très fort, il y a un lien direct avec Allah Azza wa Jal. Vous savez, le hadith, vous connaissez, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal répond. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Azza wa Jal répond. Quand il dit Maliki Yawmiddin, Allah répond que son serviteur a fait ses louanges et ainsi de suite. Et quand il dit Yaka na'budu, Yaka nasta'in, il arrête, il arrive jusqu'à la fin de la Fatiha. Maintenant, si je prends conscience que la Fatiha, c'est un dialogue entre moi et mon Seigneur, mais bien sûr, je n'entends pas la réponse de mon Seigneur, mais je pense qu'on s'appliquerait un peu plus. Au moins dans la lecture de Al-Fatiha, qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette qualité. Allahumma amin. Waddu zakat amwalikum, donnez l'aumône. Comment est-ce qu'on obtient la piété par le biais de l'aumône? L'aumône est un sacrifice. La salat est un sacrifice sur les 5 sens pour qu'on se soumette à Allah. Le jeûne, on l'a bien expliqué, on a bien compris. La zakat, pareil. Parce que, inna wa tuhibbuna al-mal hubban jamma. De le Coran à maintes et maintes reprises dans différents versets, Allah Azza wa Jal rappelle qu'il est dans la nature de l'être humain d'aimer les biens de ce monde. C'est comme ça. On a été créé comme ça. Et donc, quand Allah te donne ses biens, maintenant qu'Allah te demande de prendre une partie de donner, ça devient lourd sur le cœur. Ça devient lourd. Et là, c'est le sacrifice entre ce qu'on aime garder et le devoir de soumission envers Allah Azza wa Jal en donnant ce que nous aimons. Et ça, c'est une action qui nous permet également de développer la taqwa. Et la personne qui donne l'aumône régulièrement, ben, il va développer également sa piété. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un sacrifice à soi-même, on fait passer l'obéissance d'Allah avant ce que je veux, avant ce que j'aime, avant ce que je souhaite, ben, on est en train de gravir les échelons de la taqwa. Donc là, on a déjà un programme qui est pas mal. Hein, fait ça. Si quelqu'un fait ce tahajjud tous les jours, Allahumma ja'alna minhum. Tu vois, toi, en été, il est chaud. Hein. Il fait chaud et très tôt, la qiyamul layl. Si quelqu'un jeûne lundi et jeudi, et 13, 14, 15, et tous les jours, il donne une sadaqa, comment voulez-vous que la personne ne progresse pas? On avait cité, c'était à Montreuil, ça, ce savant égyptien. Chaque fois qu'il venait à la masjid, il apportait quelque chose pour donner à un pauvre. Et alors que, quand je dis un pauvre, lui-même, il n'était pas très riche. Il y a des fois, il n'avait plus rien. Il amenait, une fois, un de ses disciples, c'était un savant, il voit ce cheikh à la masjid avec des oignons dans sa poche. Alors, quelqu'un débarque mosquée avec des oignons, il dit, il y a un problème. Il dit, cheikh, de telles choses à ta poche, ça va salir tes vêtements. Il a dit, aujourd'hui, j'ai cherché dans ma maison, j'avais rien à donner. Et j'avais trouvé quelques oignons. Donc, je prends et je donne à quelqu'un qui va peut-être consommer ou qui va vendre, peu importe. Ça, c'est ma zakat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils font amal avec conviction et yaqin. C'est le hadith dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, rappelle qu'il y a un ange qui, tous les matins, il fait cette annonce que Allah accorde à celui qui donne, mais Allah maudit celui qui retient, qui ne donne pas. Oman yaoumiyan. Et qu'on retienne bien, l'oman, ce n'est pas l'action des riches. Ce n'est pas une action exclusivement réservée aux riches. Ce alim, il n'avait plus rien, même pas un dirham, même pas un dinar. Il amène quelques légumes. Ça nous coûte quoi? Par exemple, si on est à la maison, on a une banane, on a... Je sais pas, vous avez acheté un banane. Amenez deux ou trois, donnez à quelqu'un, subhanallah. Ça coûte quoi? Et ça, c'est considéré comme une aumône. Peut-être par ça, on construit notre taqwa. Mais le faire, tout le temps. Le faire pour Allah. Wa du zakat, wa alaykum. Et enfin, wa atiyu umara'akum. Ay man ja'alahumullah umara alaykum, les personnes qu'Allah Azza wa Jalla a mis comme responsables de les obéir. Mais bien sûr, ce hadith, cette portion de hadith doit se comprendre avec les autres textes prophétiques. Parmi cela, quand le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle, le hadith nous revient, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, ou comme a dit alayhi salatu wa salam, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Quelqu'un vous ordonne de faire le mal, on ne va pas dire que oui, il m'a donné l'ordre. Non, aucunement. Et là, ça nous rappelle également que le mu'min, c'est une personne qui réfléchit. D'accord? Il reçoit un ordre, il sait qu'il y a quelque chose à faire, mais il va analyser. Est-ce qu'il est dans l'obéissance d'Allah ou il est dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal? Il ne va pas faire tout ce qu'on lui dit, surtout pas ce qui va à l'encontre de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et celui donc qui respecte, et puis bien sûr, ça c'est un point qu'il doit développer avec beaucoup plus de précision que cela, d'accord? Et celui qui arrive à développer ses qualités, le prophète alayhi salatu wa salam promet que cette personne va accéder au paradis, ce qui est l'objectif du musulman. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de développer ces actions, ces actions que nous faisons déjà, mais que nous puissions développer les qualités d'Ali A'mal, que nos prières atteignent le degré, le niveau qui est requis pour le mu'min, qui nous permet d'arriver vers la taqwa, que nos jeûnes, nos saumes, nous permettent d'atteindre réellement la taqwa, que le mon, qu'Allah donne tawfiq de donner le mon, la zakat annuelle, mais également le mon régulièrement, et que cela nous permet également de construire notre taqwa. Trois actions qui vont nous permettre de construire notre capital taqwa, à condition de le faire, inshallah, avec istiqama, avec fermeté, qu'Allah nous accepte et nous donne ses qualités. Allahumma amin. Avec ce hadith qui était bref, explication, on va dire assez concis, on a bidnillah complété le chapitre concernant Babu Taqwa. Et le prochain chapitre, il est magnifique. On a commencé un peu à lire l'introduction et c'est vraiment magnifique. C'est le chapitre Bab al-Yaqin wa Tawakkul. Al-yaqin ou al-tawakkul. Comment on peut traduire yaqin? La certitude, la conviction, et al-tawakkul, la confiance. Donc là, on reste de le spirituel. On reste vraiment de tout ce qui est qalb, de tout ce qui est intérieur. Et en introduction, avant de commencer les hadiths, il y a de magnifiques versets. Le verset qu'on va essayer de voir la prochaine fois, c'est la sourate Al-Ahzab. On connaît l'histoire de Al-Ahzab, la bataille des coalisée, qu'on appelle également la bataille du fossé. D'accord ? Dans cette bataille, comment est-ce que les mu'mines et les musulmans ont été éprouvés ? Et il y a un parallèle entre la vision, et ça c'est des choses qui sont magnifiques, le Coran, dans la même sourate Al-Ahzab, on a une situation critique à Al-Ahzab. Un siège où les croyants ne peuvent, ils savent que si plus ils restent, plus ils sont en difficulté. C'était le principe du siège. Et la vision du mu'min et la vision de l'hypocrite et de celui qui a un manquement dans son yaqin. C'est pour ça que le mu'allif a cité ce verset pour montrer le mu'min dans des situations d'extrême, il voit toujours la sagesse d'Allah. Alors que l'hypocrite, et qu'Allah nous protège de l'hypocrisie, mais ce qui est embêtant, c'est que juste après l'hypocrisie, le mu'allif cite également « da'iful iman », celui qui a la foi faible ou qui manque de confiance en Allah et qui manque de conviction en Allah, lorsqu'il est ébranlé par une situation extérieure et inhabituelle, il n'arrive pas à se raccrocher à Allah Azza wa Jal, il perd pied. Il affole, il perd ses repères jusqu'à perdre toutes ses bases spirituelles pour sombrer dans ce tourbillon et qu'Allah nous protège. On va essayer d'analyser ces deux cas de figure. Allahumma amin. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursaleen. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Permettez-moi une petite anecdote qui m'a fait sourire tout le week-end. Ça s'est passé ici. Dans la madrasa, samedi en cours de Sira, histoire, la biographie du Prophète, donc, il y avait un élève qui était absent pendant quelques jours. Donc, je demande à l'élève, pourquoi est-ce que tu étais absent? Il m'a dit que mon papa ne pouvait pas me déposer. Il m'a dit, khalas, ma'adour. Ça, c'est une excuse qui est acceptée. Puis je dis, pourquoi papa ne pouvait pas te déposer? Il conduit et tout. Il dit, non, papa était à l'hôpital. Il dit, ah bon, c'était grave. Il a subi une opération. J'ai dit, une opération de quoi? Là, il réfléchit, il me dit, l'opération de la poitrine. Il a dit, ah là là. Il a écouté trop les quads sirat. Puis j'ai dit à cet élève, peut-être ton papa voulait devenir prophète. Il voulait chaque constat. Vous connaissez l'opération de la poitrine? Je ne sais pas si tout le monde a saisi. C'est quand le problème a suivi l'opération qui a été petit, laver son cœur, enlever les péchés et avoir les qualités d'Ambiya. Et donc, il n'a pas suivi l'opération de la poitrine, son père, bien sûr. Mais l'enfant écoutait tellement les dalles de Sira, et quand il a demandé l'opération de la poitrine, il dit, je crois que c'est l'opération de la poitrine. Il a dit que peut-être ton père veut devenir prophète, mais dis-lui de ma part que c'est trop tard, il n'y a plus de prophète, mais qu'Allah t'accorde les qualités. C'était la petite anecdote qui montre l'innocence des enfants et que quand même, inchallah, les enfants apprennent et ils avancent, alhamdoulilah, et ça nous fait plaisir qu'Allah les garde sous sa protection. Nous ne sommes que des intermédiaires. On essaie d'inculquer des valeurs dans un monde qui est très compliqué. On a des soucis à se faire pour nos enfants. C'est vraiment un monde complexe et les choses vont se dégrader, hein, les valeurs vont se perdre. Et à nous d'être là en tant que parents, en tant que muallim, en tant qu'enseignants, on doit essayer d'épauler nos enfants, de les aider. C'est la meilleure des choses, le meilleur des biens qu'on peut faire pour nos enfants. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursaleen. Alhamdulillah.